d'être 17h, bienvenue au journal en français du studio Kalangou, au micro Rafika Taher. À la une ce mercredi 7 décembre 2022, les acteurs de la riziculture sont à Niamey pour réfléchir sur l'avenir de la production du riz local. Les autorités nationales projettent pour une suspension d'importation du riz à l'horizon 2025. La mine d'uranium d'Imouraren reprendra service bientôt dans le nord Niger. Le patron d'Urano l'a annoncé en début de semaine à Paris. Réaction de l'ONG Agriman depuis Arlit à suivre dans ce journal. Dans la partie magazine de cette édition, à suivre la sensibilisation menée par une cellule d'écoute sur les violences et harcèlements sur les lieux de travail. Bonsoir à tous. Les acteurs de la filière riz sont en concertation à Niamey sur les préoccupations et les difficultés du secteur. Cela en marge de la 12e édition des journées des riziculteurs et de promotion du riz local. Cette rencontre qui s'est ouverte hier s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement à arriver à zéro importation d'ici 2025. Issa Soumaïla, responsable suivi et évaluation de la Fédération des unions et coopérative des producteurs du riz FUCOPRI est au micro de Mokhtar Hamadou.
Le gouvernement avait élaboré une stratégie pour arriver à zéro importation de riz à l'horizon 2025. C'est vrai, c'est un programme qui a plus ou moins démarré parce que la stratégie a été adoptée en Conseil des ministres en février 2022 et il y avait eu le lancement tout récemment en septembre 2022 également. Un secrétariat permanent est mis en place avec quelques membres de l'équipe qui est en cours d'installation et des projets sont en cours de formulation. Nous estimons que même si on ne peut pas arriver à l'objectif, en tout cas, quand même il va y avoir une augmentation de la production, ça va réduire au moins sur les taux d'importation du riz. Actuellement, le problème de la filière riz, sa compétitivité est liée d'abord à la faible productivité en termes de superficie et en termes de rendement. C'est vraiment la volonté politique pour mettre les moyens, faire de nouveaux aménagements. Et de l'autre côté, l'engrais est devenu extrêmement cher, donc ça constitue vraiment un facteur très limitant pour les producteurs.
Les éleveurs de la localité de Ngelkolo dans la région de Diffa se plaignent du manque d'eau. L'unique station de pompe d'eau est tombée en panne depuis quelque temps. C'est pourquoi les éleveurs lancent un appel aux autorités afin de leur venir en aide à travers la réparation de la pompe du forage. Moussa Issakou, représentant des éleveurs de Ngelkolo, est au micro de Guy Abdraman.
Ici, nous avons un problème d'eau, car nous n'arrivons pas à en trouver assez. Il y a beaucoup d'animaux, mais l'eau n'est pas suffisante. D'habitude, nous prenons une seule heure pour abreuver nos animaux. Mais maintenant, on peut dépasser 6 heures de temps sans finir. Le souci est que le château d'eau est en panne. L'eau n'arrive pas à remonter par les tuyaux. S'il ne fait pas très chaud, nous ne trouvons pas de l'eau en quantité suffisante. Nous avons besoin que l'État ou le conseil régional nous règle ces problèmes afin de bien abreuver nos animaux et qu'ils puissent paître pour avoir un bon point.
Comme annoncé dans les titres, fermés en 2014, 5 ans après le démarrage des travaux de terrassement, la mine d'uranium d'Imouraren reprendra des services selon le directeur général de la société Urano Mining. L'annonce a été faite en début de semaine à Paris, en marge de la table ronde sur le financement du PDES du Niger. Une fois mise en service, la mine d'Imouraren devrait produire environ 5000 tonnes d'uranium métal pendant par an pendant 35 ans selon Urano. Ramar Elatoufette, secrétaire général de l'ONG Agriman, réagit par rapport à cette annonce au micro de Gungu Mahamad Dantani.
Si c'est vrai que ça va ouvrir, personne ne sait dans quelles conditions, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont produire, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Il n'y a aucune indication sur ce sujet. Poser la question, quel est l'impact ou qu'est-ce que ça doit devenir? Si tant il est vrai que Imouraren va ouvrir, le constat qu'on tire à partir de la fermeture de la Cominac, c'est que nous, Nigériens, nous n'avons pas retenu la leçon de l'exploitation minière, surtout par rapport à la protection de l'environnement. Nous n'avons rien retenu quand on regarde la façon dont Cominac est en train de fermer et les impacts qu'elle a laissé sur place et les conséquences de cette fermeture. Par rapport aux dispositions qui ont été prises dans le cadre de la fermeture de Cominac, ça veut dire qu'on n'a rien retenu dans la fermeture des mines. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau par rapport à Imouraren. Imouraren va être le copier-coller de Somaïr, copier-coller de Cominac au début et à la fin, ça sera le même copier-coller. Voilà donc ce que je pense par rapport à l'ouverture de la mine d'Imouraren, si cela s'avère vrai.
Une importante quantité de détonateurs et explosifs a été découverte dans un ancien magasin d'un service à Zender hier. Selon les experts, ces explosifs dateraient de 1967. 4 élèves d'une école primaire Birni Sud contiguë au magasin sont blessés avec la manipulation de ces objets. Les autorités régionales demandent aux parents de vérifier les sacs de leurs enfants. Lawali Amadou Madougou, gouverneur de Zender, est au micro d'Ali Keita.
Il y a des magasins dans lesquels des explosifs, en tout cas, qui sont dangereux, déposés depuis 1967. Suite à une opération de salubrité dans ces magasins, le gardien a évacué un certain nombre qu'il a mis dans les poubelles. C'est ainsi que les élèves d'un établissement qui est contigu à ces magasins les ont ramassés et ils ont tenté quand même de les utiliser. Il y a des enfants qui sont blessés aujourd'hui suite à ces étincelles qui dégagent ces explosifs. Pour le moment, nous avons à peu près 4, dont un quand même qui est un peu grand, ses paumes de main sont enflées. Il y a un aussi qui a manipulé ça à côté de sa sœur. Non seulement lui, il est blessé, mais aussi sa sœur qui est venue à terme de curiosité. Elle aussi, elle a eu sa dose. C'est des explosifs qui peuvent atteindre quelques mètres autour de celui qui les manipule. Et ils sont d'une dangerosité à telle enseigne qu'il suffit tout s'en brancher et aussitôt ça déclenche.
Dans le cadre de ces activités, notamment la prévention des maladies, le district sanitaire de Mayaï a lancé hier à Kanembakaché le dépistage du cancer et du col de l'utérus. Docteur Idi Moussa est médecin-chef du district sanitaire de Mayaï. Il explique le rôle important qui est attendu des centres de santé et des hôpitaux du district du département. Il est au micro de Issoufou Cheibou.
Le dépistage concernera les femmes âgées de 25 à 65 ans. Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant qu'agents de santé? C'est d'intégrer la sensibilisation sur l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans les causeries de groupe au niveau des formations sanitaires. Faciliter aux femmes l'accès à l'information et au dépistage à chaque occasion de contact. Intégrer les activités de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le paquet d'activités des CSI et de l'HD à l'échelle du district.
L'Association des professionnels africains de la communication APAC, section du Niger, forme une cinquantaine de journalistes sur les techniques d'investigation. Une formation de 5 jours qui a débuté hier à Niamey. Les journalistes seront formés sur plusieurs thématiques dont la corruption et la fraude fiscale. Amina Niendou, présidente de APAC Niger, au micro de Ali Tajissir Ahmed.
L'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est démarrer le programme de formation de 50 journalistes en investigation pour que notre pays soit doté d'un pool de journalistes experts sur ces questions-là. Cette première formation concerne les journalistes de Tillabéri et de Niamey. Nous serons avec 20 participants qui vont travailler 5 jours avec des experts thématiques sur les questions de corruption, de lutte contre la corruption, sur des questions de fraude fiscale, évasion fiscale, irrégularité budgétaire. Et nous serons également avec un expert en investigation internationale qui sera secondé avec un expert national aussi sur ces questions-là durant ces 5 jours de travaux. Nous allons continuer en région très bientôt. Tous ces journalistes ont été choisis suite à un appel à candidature.
Au Niger, des guichets uniques d'établissement des pièces d'état civil ont été recensés, créés dans certains chefs-lieux des départements, dont celui de Filengué. Cheibou Ndoli, le maire de la commune urbaine de Filengué, explique le rôle de ce nouveau service au micro de Amadou Assoumane.
Le guichet unique de l'état civil, c'est un nouveau service qui a été initié par l'État en collaboration avec le PNUD. Pour ce guichet unique, je tiens à préciser que il y a la commune urbaine de Filengué qui est concernée. Par rapport aux pièces qu'il faut établir, nous avons d'abord le passeport, le casier judiciaire, le certificat de nationalité et les autres pièces d'état civil que nous établissons donc dans nos différents services donc, de l'état civil. Ça sera délivré à partir de Filengué. Maintenant, nous attendons. Le matériel informatique et bureautique sera mis en place. Maintenant, il y a une question donc, de procéder. Selon l'information que nous avons reçue, la responsable donc, du PNUD qui était venue il y a de cela 2 semaines pour la réception, nous ont fait comprendre que le matériel bureautique informatique sont déjà sur place. Nous espérons peut-être d'ici le début de l'année 2023, Inch'Allah. Puisque déjà le bâtiment est fini, nous attendons maintenant seulement la finalisation donc, de ces textes dont j'ai fait cas tout à l'heure.
La campagne électorale au Nigeria est lancée. Les élections générales sont prévues en 2023. Le président sortant Mohamed Buhari est à son deuxième et dernier mandat. Il ne se représente plus. Selon un confrère journaliste de Maiduguri, toutes les dispositions sont prises par les autorités pour un bon déroulement du scrutin. Plus de 100 partis politiques sont en compétition. Baba Gana Bukar, journaliste à Maiduguri, est joint au téléphone par Tarnan Fouday Ahmed.
Toutes les dispositions réglementaires de cette élection ont été finalisées. Le président Mohamed Buhari a promulgué le décret autorisant le démarrage de la campagne électorale. Dès lors, la campagne a commencé sur toute l'étendue du territoire du Nigeria. Beaucoup de partis politiques sont sur le terrain. Cependant, certains partis politiques mobilisent plus que d'autres l'assentiment des électeurs. Plus de 100 partis politiques se sont lancés dans la course aux élections à travers les différentes échéances. Mais l'état-major de l'armée a annoncé au gouvernement de l'état de Borno de signifier aux partis politiques qu'ils doivent éviter de se rendre dans les zones où la sécurité n'est pas garantie.
En sport dans cette édition, le Maroc est le quatrième pays africain à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Hier, les Lions de l'Atlas ont battu les Espagnols au tir au but. Ainsi, pour leur prochain match, les Marocains affronteront les Portugais. Lawali Garba, technicien du football, fait le résumé de la rencontre Maroc-Espagne et donne son avis sur le prochain match. Il est au micro de Soumana Amadou.
C'est un exploit que le Maroc a réalisé en écartant l'Espagne pour se qualifier au quart de finale. Par rapport au match, c'était David contre Goliath, mais doté d'une intelligence collective, très entreprenant, ils ont su profiter des individualités de certains joueurs pour les exploiter collectivement. Et là aussi, il faut saluer la prestation du gardien de but Yassine Bounou, qui a été impérial. Pour les quarts de finale, face au Portugal, les Marocains ne partent pas favoris, certes, mais peuvent créer la surprise dans la mesure où, sur le plan psychologique, ils sont très bien préparés. Ils ont des potentialités qui peuvent leur permettre d'asseoir une tactique collective pour empêcher le Portugal de s'exprimer normalement sur le terrain. Il se pourrait que ce soit encore partir au but que les Marocains vont se qualifier pour aller en demi-finale.
La cellule d'écoute affiliée à la Confédération nigérienne du travail CNT a initié récemment à Niamey une campagne de sensibilisation sur les violences et les harcèlements sur le lieu de travail. Cette campagne est destinée aux femmes selon les responsables de la cellule. Ces séries de rencontres permettront aux travailleuses et travailleurs de prendre conscience de l'existence de la pratique. Maïmouna Diado, membre de la cellule d'écoute, explique au micro de Hassoumi Karimuguruza en magazine.
Ces violences et harcèlements sexuels sur le lieu de travail existent et on a tendance à dire que le harcèlement ou les violences, ce sont les femmes qui sont les plus violentées. Oui, c'est vrai, mais de nos jours également, il y a des hommes travailleurs qui sont violentés.
Quelles sont les formes de violences qu'on rencontre sur le lieu de travail?
Il y a plusieurs formes de violences. Il y a la violence conflictuelle entre un patron et son employé. Il y a ce qu'on appelle aussi les harcèlements sexuels. Ça peut être un attouchement, ça peut être un regard, ça peut être également physique, comme ça peut être psychologique.
Où est-ce que le travailleur victime de violence peut dénoncer?
Quand vous êtes violenté, vous pouvez vous adresser à la cellule d'écoute qui est logée au sein de la CNT. Cette cellule d'écoute va vous écouter, prendre en compte le harcèlement dont vous êtes victime ou la violence, et ensuite vous orienter vers les organes compétents. Une seule inquiétude, c'est que peut-être les travailleurs pensent qu'une fois arrivé à la cellule d'écoute, tout le monde va découvrir que tu es venu dire la violence dont tu as été victime. Mais je voudrais les rassurer, tout se passe dans l'anonymat. C'est un juriste qui est là, il va prendre soin. Si vous voulez aller au pénal, c'est le juriste qui prend soin cette fois-ci de vous amener vers le pénal. Nous ne traitons que hors pénal. Donc, on aimerait que les femmes, les hommes, travailleurs commencent à dénoncer pour pouvoir stopper cette situation. Parce que plus vous ne dénoncez pas, plus vous laissez et plus cette situation devient encore plus grande.
Quelles sanctions encourent les auteurs de ces violences?
Nous sommes une centrale syndicale. Une centrale syndicale ne juge pas. On prend en main les dossiers et on les transfère au niveau des juridictions compétentes qui vont définir quelle est la sanction qu'il faut donner. Ça dépendra de la violence que cette personne a subie. Et je voudrais également dire à ces hommes, quand votre femme est violentée, si vous ne l'encouragez pas à dénoncer, cette femme ne pourra jamais dénoncer. Parce qu'il y a les pesanteurs socioculturelles qui font en sorte que cette femme, elle pense que si aujourd'hui elle vient dire à son mari qu'elle...
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.